Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Découverte des trois fosses communes à Nyamamba dans l'Ituri. Les personnes enterrées sont celles tuées lors de l'attaque de la Codeco le 13 janvier dernier dans cette entité. Cela d'après les résultats des enquêtes de l'auditorat militaire supérieur. Révision du fichier électoral en RDC. La mission d'observation électorale SENCO-SCC dit noter plusieurs dysfonctionnements dans les centres d'enrôlement des électeurs ainsi que dans les secrétariats provinciaux de la CENI. Pour améliorer l'opération, cette structure recommande à la CENI notamment la prolongation de la durée de l'opération. Et puis, l'invité de ce midi, Pancien Divin Misenga, président de l'ASBEL, alternative des jeunes de Kananga. En séjour à Kinshasa, il appelle les autorités du pays à mettre sur pied une commission d'évaluation de tous les projets lancés par le gouvernement au Kasaï central. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Découverte de trois fosses communes dans le village de Nyamamba, 18 km de Chomia, à l'est de Bunia, dans le territoire de Djougou, selon les résultats des enquêtes menées par l'auditorat militaire supérieur qui revient du lieu de crime. 24 personnes tuées lors de l'attaque des combattants de la Codeco le 13 janvier dernier dans cette entité y sont enterrées. La justice militaire a ouvert un dossier judiciaire en charge du chef milicien de la Codeco, connu sous le sobriquet de loup de la montagne et ses éléments actifs dans cette région pour crimes contre l'humanité par meurtre. Martial Kiza nous raconte.
Ces massacres de civils avaient eu lieu le 13 janvier dernier vers 15h du matin. Selon des enquêteurs, ce jour-là, des combattants identifiés au groupe armé Codeco, venus de la localité des Cafés, ont envahi les villages lacustres de Nyamamba. Ils ont tué, incendié des paillotes et 16 boutiques et un hôtel de fortune pillés. Les résultats des enquêtes menées par l'équipe de l'auditorat supérieur révèlent que, après les violences, 24 personnes ont été tuées et enterrées dans trois fosses communes, dont la première, 13 civils, la seconde, 7 personnes et 4 dans la troisième. Il y avait eu notamment déportation de 5 femmes, dont une enceinte de 7 mois. Les enquêteurs parlent de crimes contre l'humanité avec meurtre dont le présumé auteur sont les loups de la montagne, commandant de la Codeco dans la région de Chomia et 5 de ses miliciens. Notons que cette attaque avait causé le déplacement de centaines de familles vers la localité lacustre de Nyamusasi, parmi eux des femmes et des enfants dépourvus de tout. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Restant en Ituri, presque tous les déplacés de Savo sont retournés jeudi soir au site après le meurtre de 7 personnes par les miliciens de la Codeco. Cependant, ces déplacés et d'autres des sites proches de Lala et de Tukpa, estimés à environ 55 000 âmes, vivent dans une psychose à cause de l'absence des forces de l'ordre pour garantir leur sécurité, précise le comité de gestion de ces camps. Ces déplacés n'ont pas non plus accès aux champs à cause de la présence des miliciens de la Codeco. Isaac Remoyope, reportage.
Presque tous les déplacés d'ici des Savo qui comptent 34 000 personnes et c'est des villages proches de Gali, Lodjou, Ngujona et Nyini ont fui jeudi au centre commercial des Boulets à 3 km après l'attaque des Codeco qui a fait 7 morts, des blessés et plus de 50 maisons détruites. Vers le soir, presque tous se sont rentrés au site. Mais ils vivent dans la peur car il n'y a aucune présence des Faradécé, affirme leur président. Une psychose s'observe également au site proche des Lala et des Tchoukba qui compte 21 000 personnes. Emmanuel Ndalo demande aux autorités de déployer les militaires autour de leur camp et au casque blé de la MONUSCO de rapprocher leur base des Bayo située à 5 km pour prévenir des nouvelles attaques du groupe armé Codeco. La situation humanitaire est également préoccupante car ces déplacés n'ont pas accès aux champs situés aux alentours des sites à cause de la présence de cette milice. Emmanuel Ndalo.
85% de la tous rentrés. Il n'y a pas de militaires. La sécurité n'est pas garantie. Il n'y a rien à manger parce qu'ils ont peur. Il n'y a pas moyen de se déplacer. Il faut que le cas de la MONUSCO soit proche du cas de déplacés.
Par rapport à la requête de se déplacer, le chef de la MONUSCO en Ituri indique que les casques bleus sont positionnés de manière à intervenir efficacement sur n'importe quel site dans les territoires de Djougou. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée congolaise et des humanitaires par rapport aux recommandations de se déplacer. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, la situation humanitaire des milliers de déplacés de Rutshuru vivant en territoire de Nyiragongo est loin de trouver solution. L'aide alimentaire suffisante s'est fait de plus en plus semble rare. Les déplacés disent arriver au bout de la patience et préfèrent aller mourir dans leurs entités occupées. La situation est générale dans tous les sites, mais nous avons visité le site de Bouvira qui héberge au moins 2500 familles. La dernière assistance du gouvernement remonte en octobre dernier, alors que plusieurs autres ménages continuent à arriver. C'est ce que nous dit Sifa Maguro.
On n'en peut plus. Je pense que nous n'allons plus rester ici longtemps. Le premier ennemi, c'est la famine. Que le gouvernement nous ramène chez nous. Je préfère mourir chez moi que de souffrir de la sorte. C'est en ces termes qu'un père de famille a lâché sa colère au regard des conditions de vie que mènent tous les déplacés dans les territoires de Nyiragongo. Ntezimana Jean-Baptiste. Ça fait 4 mois que le gouvernement nous a donné la nourriture et depuis lors, plus rien. Nous enterrons des enfants à cause de la famine. Les femmes enceintes manquent de quoi mettre sous la dent et meurent. Beaucoup de gens vont chercher à manger dans la brousse. Je ne sais pas que nous allons rester encore ici. Nous sommes obligés de nous jeter entre les mains du M23. Nous avons déjà écrit, si on ne veut pas nous aider, qu'on nous ramène chez nous. Bien que ce site de Bouvira soit un peu plus mieux aménagé par rapport à d'autres, grâce aux efforts du gouvernement à travers une ONG locale à Crure. Cette organisation a érigé une 20aine de hangars pour protéger les déplacés des intempéries et a mis en place tout un dispositif d'hygiène et approvisionnement en eau potable. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Par ailleurs, une accalmie relative s'observe depuis la matinée de ce vendredi dans les entités de Mudugudugu, Rusekera et Bouiza, chefferie de Buito, mais aussi sur l'axe Kingi-Karenga, secteur Nyamulagira dans le territoire de Masisi. C'est à la suite des affrontements signalés hier entre les FARDC et le M23 d'une part et les milices locales contre le M23 d'autre part. D'après plusieurs sources concordantes, la situation reste volatile et confuse sur ces deux lignes de front. Le porte-parole de l'armée indique que les FARDC observent la trêve tel que recommandé par les chefs d'État, mais ils se défendront contre chaque attaque pour sécuriser le territoire et la population congolaise. Le point avec vous, Noéla Luzito Kabambi.
En premier lieu, sur l'axe Mudugudu Rusereka et Bouiza, plusieurs sources locales, notamment la société civile, indiquent qu'après d'intenses combats à l'arme lourde tout l'après-midi hier jeudi, la milice CMC Nyatura aurait revendiqué avoir délogé les combattants M23 de Mudugudu sans plus de précision. Selon les mêmes sources, ce vendredi matin, les éléments du M23 se seraient retirés de leur position de Tongo et se dirigeraient vers Bouiza où cette rébellion renforce davantage ses positions. Un responsable administratif local joint par Radio Okapi exprime certaines craintes disant que la situation est incertaine dans cette région. Par ailleurs, sur l'axe Karenga, la société civile de Masisi affirme qu'il y a accalmie relative ce matin, mais sans donner une quelconque précision sur les affrontements d'hier entre les FARDC et les rebelles du M23. Notez que ces derniers temps, les affrontements se déroulent dans le parc des Virunga et la population avait déjà abandonné ce milieu depuis quelques mois. Contacté ce matin, le porte-parole des FARDC, lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, affirme que les FARDC respectent la trêve, mais elles doivent se défendre devant toute attaque afin de sécuriser le territoire congolais.
Et puis, notez que le gouvernement rwandais dit prendre note avec regret de la déclaration du gouvernement de la RDC du 18 janvier dernier qui, d'après Kigali, présente une lecture sélective du communiqué de Luanda du 23 novembre 2022. Selon le bureau du porte-parole du gouvernement rwandais, je le cite, « Cette déclaration passe sous silence des décisions clés du sommet et s'est conclue par ce qui ne peut être considéré que comme une menace d'attaque imminente contre le Rwanda. » Fin de citation. Rachel Kiesé.
Dans un communiqué daté d'hier jeudi 19 janvier, le porte-parole du gouvernement rwandais déclare que les manifestations organisées contre la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est à Goma et dans d'autres parties du pays font partie d'une stratégie de l'armée et du gouvernement de la RDC pour se retirer des processus des paix de Nairobi et de Luanda. Ces manifestations, poursuit la même source, semblent avoir pour but de provoquer le départ de la force de l'EAC en dépit du fait que le communiqué de Luanda de la poursuite du déploiement de la totalité de la force régionale. Le communiqué de Luanda appelle également à la fin de tout soutien politique et militaire à la milice génocidaire, FDLR et autres groupes armés illégaux, ajoute Kigali. Pour le gouvernement rwandais, la RDC a violé cette décision en continuant à fournir des armes et à combattre aux côtés de plusieurs groupes armés illégaux dans l'est de la RDC. Pour le Rwanda, le gouvernement congolais a signé le processus de Luanda et de Nairobi en tant que partenaires d'exécution et des vrais se consacraient à leur pleine mise en œuvre. Les tentatives de sabotage et d'abandon de ces accords ne peuvent être considérées que comme une volonté de prolonger la crise et de perpétuer l'insécurité dans l'est de la RDC, indique le porte-parole du gouvernement rwandais.
Les rôles des membres de la société civile et mouvements citoyens dans le cadre du retrait progressif de la MONUSCO au centre de l'atelier de restitution et sensibilisation des représentants de la société civile et des mouvements citoyens hier jeudi à Bukavu. L'activité appuyée par la section affaires civiles de la MONUSCO Bukavu a pour objectif de contribuer au renforcement de la confiance entre les acteurs étatiques, la société civile et la MONUSCO en vue de la promotion de la sécurité, de la protection des civils et de la cohésion sociale. Encore une fois, retrouvons Rachel Kiesembangu.
Restituer et assurer une large diffusion des acquis de l'atelier provincial de réflexion sur la restauration de la collaboration et de la confiance entre la MONUSCO et la population du Sud Kivu tenue en août 2022, tel est l'objectif de cette rencontre qui a réuni les acteurs impliqués dans ce processus, avec cependant un accent particulier sur le rôle de la société civile. Zozo Sakali, lead de membres de la société civile dans cet atelier.
Parmi ses engagements, la société civile sensibilise aujourd'hui la population sur l'enrôlement massif des jeunes dans les FARDC. La société civile travaille sur la sensibilisation pour démobiliser et désengager les jeunes dans des groupes armés.
Les participants à l'atelier précédent s'étaient engagés à sensibiliser la population sur le mandat et action de la MONUSCO. Un rappel du secrétaire particulier, du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Patrick Paluku.
Il y a des recommandations qui avaient été prises et tous les participants à l'atelier avaient convenu de continuer la sensibilisation de manière à ce que le mandat de la MONUSCO soit connu, les actions de la MONUSCO soient connues par la population, aussi de manière à renforcer le cadre de collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement et les populations locales.
Une campagne de sensibilisation des populations de territoire sur toutes ces questions est prévue dans les jours qui viennent. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Parlons à présent du processus électoral en RDC. La mission d'observation électorale CENCO-ECC note plusieurs dysfonctionnements dans les centres d'identification et enrôlement des électeurs ainsi que dans les secrétariats provinciaux de la CENI. Au total, 196 observateurs déployés dans les 10 provinces de la première ère opérationnelle du 27 décembre 2022 au 13 janvier 2023 ont présenté 1674 rapports contenant des faits observés dans les centres d'inscription, bureaux des antennes ou secrétariat, en attendant la publication des rapports à mi-parcours au cours d'une déclaration commune hier au centre interdiocésain à Kinshasa. La mission d'observation électorale CENCO-ECC, plateforme chrétienne de ces deux confessions religieuses, a formulé quelques recommandations à la CENI pour améliorer l'opération en cours. C'est notamment la prolongation de sa durée dans les centres ayant ouvert avec retard et ceux ayant été victimes des dysfonctionnements. Les détails avec Jeff Ngoy Mulunda.
Plusieurs rapports de la mission d'observation électorale notent des cas de dysfonctionnement des kits d'enrôlement et de perturbation des dites opérations dues aux pannes, aux problèmes de recharge des batteries et aux arrêts intempestifs des machines dans les centres d'identification CI. Selon la MOE, les données collectées indiquent qu'il y a des centres non ouverts et non opérationnels, voire inexistants, bien que répertoriés dans la cartographie de la CENI. Dans d'autres sites, les listes journalières des inscrits ne sont pas systématiquement affichées ou encore, si elles le sont, elles sont arrachées. Elle recommande, entre autres, au gouvernement, plus particulièrement au ministère de l'Intérieur, de se rassurer que les agents de l'ordre affectés dans les centres sont bien formés et assurent convenablement la sécurité du personnel et du matériel électoral. À la CENI, elle demande de renforcer la présence des contrôleurs techniques dans les CI afin qu'ils apportent un appui aux agents électoraux et assurent le ravitaillement des centres en matériels électoraux ainsi qu'en consommables en temps réel. Les prolongations ainsi sollicitées devraient tenir compte du temps perdu par chaque CI d'après la mission.
Dans le cadre de suivi de l'évolution des travaux des différents chantiers des infrastructures routières, surtout les routes menacées par des têtes d'érosion à Kinshasa, travaux lancés par le gouvernement Samalou Kondé, le Premier ministre accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures, celui des transports et voies de communication par intérim, du ministre des Affaires sociales ainsi que quelques membres de son cabinet, a fait la ronde de quelques sites érosifs et points chauds de la capitale hier. Jean-Michel Samalou Kondé a souligné l'importance de sensibiliser la
population à éviter de construire sur les zones à haut risque. La route nationale numéro 1 à Matadi-Kibala, à l'arrêt dénommé en vrac, a été le premier site. Ensuite, la route Zamba Telecom. Le troisième site est celui de Kindele sur la route Kimwenza. Je vous propose d'écouter le Premier ministre dans cet extrait choisi par Innocent Fadili.
Et c'était aussi une occasion de visiter d'autres sites érosifs, notamment de Kindele, si je peux citer que celui-là, parce que nous voulons ici prévenir. C'est vrai que Kinshasa reste une ville à haut risque du point de vue des érosions, mais nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu la nuit du 12 au 13 avec ces pluies diluviennes. Et donc, cette sensibilisation à faire sur les populations, d'abord pour qu'elles ne puissent pas construire ces zones d'édificandi, mais au-delà de ça, de voir les têtes d'érosion qui sont déjà en présence et la manière dont elles sont prises en charge. C'était aussi l'occasion de visiter notre point qui, avec les pluies diluviennes que nous avons connues cette saison, ont été endommagés, indépendamment des efforts qui sont faits par tous les services de voirie ici pour maintenir la fluidité du trafic dans la ville de Kinshasa et nous assurer que là aussi il y ait une prise en charge pour garantir justement cette fluidité dont j'ai parlé et éviter les embouteillages.
À Bandundouville, chef-lieu de la province du Kwilu, les nouvelles autorités des différentes entités, dont le maire de la ville et les trois bourgmestres des trois communes, sont entrés en fonction hier après une cérémonie de remise et reprise effectuée avec leurs prédécesseurs. Cependant, ces dernières doivent s'y mettre au travail car les attentes de la population sont nombreuses au regard de la situation chaotique que traverse la ville. Ces attentes sont entre autres l'éclairage public, l'assainissement de la ville, rendre la voirie urbaine praticable et la réduction de l'insécurité due au phénomène Kuluna. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mali. Les autorités militaires maliennes ont reçu jeudi des nouveaux avions de guerre et hélicoptères de la part de la Russie. À cette occasion, une cérémonie en présence de l'ambassadeur russe Igor Gromyko et du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a été organisée à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, la capitale malienne. Il s'agit de la dernière d'une série de livraisons similaires d'équipements militaires russes après d'autres en mars et août 2022. Les responsables maliens n'ont pas donné de détails sur le nombre d'appareils livrés et s'ils affirment avoir acheté les armes, ils n'ont fourni aucun détail sur les transactions.
L'invité.
Il s'agit de Pancien Divin Misenga. Il est le président de l'ASBEL Alternative des Jeunes de Kananga. Il conduit ici à Kinshasa une délégation des jeunes de sa structure. C'est confiant à Radio Kapi. Il appelle les autorités du pays à mettre sur pied une commission d'évaluation de tous les projets lancés par le gouvernement au Kasaï central. Pancien Divin Misenga s'entretient avec Paul Matendo Mayamba.
Pancien Divin Misenga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Alors, vous venez de Kananga. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Kinshasa?
Nous sommes là pour des plaidoyers et d'autres actions citoyennes, des revendications. Nous sommes là pour plaider la cause de notre province et surtout pour l'action du gouvernement qui ne connaît pas un grand succès dans notre province. Nous citons les projets lancés par le gouvernement central, les projets Chile-Gilou, qui ne connaît pas un succès, les projets de la route qui nous lie avec l'Angola, et la route appelée Kalamambouji. Il y a aussi le projet de la route numéro 1 qui nous lie avec Kinshasa. Ça ne connaît pas de succès. La route est venue jusqu'au niveau de Kamoucha, mais la partie de Kananga est toujours bloquée. Nous sommes une province enclavée. Nous n'avons pas de route pour aller dans d'autres provinces ou dans d'autres pays, même les voisins Angola qui est à côté. Et nous revendiquons aussi la relance et le finissage des travaux du barrage hydroélectrique de Katende, un projet espoir pour l'espace Grand Kasaï.
Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez entrepris un certain nombre de contacts avec les autorités. Quel est le résultat de ces contacts?
En fait, il n'y a pas des avancées parce que depuis que nous sommes là, nous comptons déjà 3 semaines. Les demandes d'audience ont été déposées à la primature, à la présidence et aussi dans d'autres ministères sectoriels, les ministères qui gèrent les projets Katende et les projets Route Kananga-Kalamambouche pour que nous rencontrons les ministres sectoriels et nous rencontrons aussi le Premier ministre, en fait, de lui faire voir que ça ne marche pas chez nous. Le gouvernement doit le plus tôt possible organiser une commission d'urgence pour faire la descente à Kananga et constater que les choses ne marchent pas et trouver d'autres solutions. Comment on peut espérer 4 ans de ces mandats? On ne voit pas des signaux forts et des signaux positifs qui pourront en fait rassurer les centres kassaïens que les mandats que nous avons donnés au président de la République devraient être une solution pour les centres kassaïens. Vraiment, c'est très désolant pour nous, mais ce sont des questions urgentes qui devraient attirer la sensibilité des autorités pour nous recevoir, parce que quitter Kananga vers ici, on a parcouru des chemins très difficiles, on a fait même la voie terrestre pour arriver ici à Kinshasa. Ce n'est pas pour la joie, ce n'est pas pour fêter, mais c'est l'indignation qui nous a fait déplacer vers Kinshasa.
Parlons du projet Katende. Quel état des lieux faites-vous de ce projet?
Le projet Katende n'est pas relancé jusqu'à maintenant. Depuis que le président de la République est président, l'actuel président, je parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il a été élu, alors que cette promesse a été faite lors de son passage en 2018, encore candidat. Et même quand il est passé pour fêter avec le centre kassaïen, il a rassuré que les travaux devraient bientôt débuter. Mais jusqu'ici, les matériels ne sont pas ramenés à Kananga. Ça moisisse toujours dans les entrepôts de la SNCC à Lubumbashi. Jusqu'ici, on ne voit pas de signaux. C'est pourquoi ces cris-là d'indignation des centres kassaïens que nous portons ici à Kinshasa pour la relance de ces travaux.
Sur le plan économique, quelles sont les conséquences de tous ces projets qui n'avancent pas?
Ça bloque le décollage en fait de la province à tous les niveaux. Comment on peut parler de l'économie? Une province qui, jusqu'à maintenant, on ne produit rien, on ne vend rien, il n'y a pas de route. Et il faut lier maintenant les marchés centraux de la province aux territoires qui sont périphériques en fait. Mais il n'y a pas de route qui nous lie. Même le maïs, ici, c'est un grand problème au Kassai central. Nous sommes ravitaillés parfois par la province serre du Kassai et le chemin de fer aussi, n'en parlons pas. C'est tellement dans un état très compliqué. Parfois, nous sommes nourris ou nous sommes servis par les services nationaux à partir de Lubumbashi. Mais nous avons des terres arabes. Nous avons des terres qui peuvent produire de maïs et toutes sortes de choses. Mais pourquoi ces choses-là que nous pouvons produire n'arrivent pas au centre-ville, n'arrivent pas à servir la population? C'est parce qu'il n'y a pas de route au Kassai central. Comment on peut parler de l'économie dans une province où il n'y a pas le courant, les infrastructures de base? Il n'y en a pas.
Ponsien Divin Bisenga, merci.
Notre invité est le président de l'ASBEL Alternative des Jeunes de Kananga. Il répondait aux questions de Paul Matendo Mayamba. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo, coordination de Noéla Zuzitu Kabambi, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa et Belinda Bosuma. Vous la présentez. Merci.